Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi. Nous sommes avec Laurent ce soir. Et alors, on va vous parler de plein de choses. On va vous parler d'Arabie Saoudite, hein, sur un sujet qui devient classique. Il faudrait espérer que ça ne devienne pas une tradition. Nous partirons en Turquie. On parlera des rapports de la Chine et de l'ONU. On parlera de l'UNQUIT, vous savez, ce compteur que nous aimons déjà beaucoup ici. Et puis, on aura une petite partie consacrée aux luttes qui se déroulent en ce moment, dont certaines se passent sur Lyon, d'autres dans de grosses multinationales. On parlera aussi de football, oui, on parlera pognon, voilà, non, on va pas vous donner des scores. On parlera d'Orelsan, ça c'est Laurent qui vous parlera d'Orelsan, il reviendra sur son sexisme, et puis on parlera olympisme aussi avec deux sujets, et puis nous aurons aussi un retour sur le virus Zika, et puis nous aurons certainement aussi des infos un peu plus radioactives, mais il y a plein de choses hein, dans l'actu dont on parlera pas aujourd'hui. On parlera pas par exemple de monsieur Obama et de Cuba, mais il y a plein d'autres sujets comme ça.
Oui.
Non, tu avais d'autres choses.
Bah oui, mais du coup, ouais. Non. Bon. Donc voilà, on va commencer par les infos kurdes et turques. Avec donc, vous avez peut-être entendu parler hier soir d'un attentat. Donc la Turquie a riposté. Alors comment elle a riposté ? Bah d'abord en accusant. En tout premier, bien évidemment, les Kurdes, hein, parce que c'est facile, ils ont un seul ennemi. Quoi qu'il arrive en Turquie, c'est la faute des Kurdes. Donc entre le PKK, donc le Parti des Travailleurs du Kurdistan, et les milices kurdes de Syrie, c'est les deux qui ont été pointés du doigt comme les responsables de cet attentat qui a fait 28 morts hier à Ankara. Alors c'est bien sûr à travers la voix de Recep Tayyip Erdogan, hein, le président tout-puissant, bientôt dictateur, du pays, et son premier ministre, M. Davutoglu. Donc, ont bien affirmé hein, la responsabilité de ces deux groupes. On notera quand même que le chef de la principale formation kurde en Syrie, qui est le parti de l'Union démocratique, Salem Muslim, lui a bien évidemment démenti toute implication des Kurdes, notamment du bras armé, enfin les milices kurdes de Syrie, quoi. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'infos à savoir qui a organisé cet attentat, parce que les Kurdes auraient intérêt quelque part à attaquer la Turquie vu ce qui est en train de se passer, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'attentat, il n'a pas visé des civils, il a visé un bus de militaires qui était arrêté à un carrefour en plein centre de la capitale turque. Donc c'est un acte militaire, hein, c'est un acte de guerre, et c'est pas un attentat terroriste traditionnel, dirons-nous. Donc il n'y a pas de raison que les Kurdes soient exclus des soupçons. Mais on ne voit pas pourquoi tous les autres en seraient exclus aussi. Hein, parce que ça peut très bien être l'État islamique, ça peut très bien être plein d'autres choses hein, vu l'État de la Turquie. Donc c'est toujours un petit peu facile d'accuser les Kurdes sans avoir aucune preuve. Alors pourquoi je dis que ça pourrait être les Kurdes ? Parce que depuis samedi, l'artillerie turque bombarde tous les jours les positions des rebelles kurdes, là, les unités de protection du peuple, donc en Syrie. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, vous avez entendu parler des attaques sur Alep par l'armée de Bachar el-Assad, du dictateur syrien, aidée par la Russie hein, qui bombarde à tout va. Et bien les Kurdes en ont profité pour attaquer de leur côté, pour récupérer des bouts de territoire. Donc ça a pas bien plu hein, la Turquie, qui s'est mis à bombarder donc ces rebelles kurdes un peu plus à cet endroit-là. Donc on comprend aussi que les Kurdes soient énervés par ces attaques de la part de l'armée turque. Donc ça remontre aussi que la Turquie continue de jouer avec le feu, avec cette guerre syrienne. Là, du coup, elle soutient certains rebelles. Voilà, surtout, elle soutient le gouvernement de Bachar el-Assad, ce qui n'est pas son habitude habituellement. Mais voilà, donc on sait qu'elle a soutenu aussi l'État islamique. Tout ce qui peut, pour la Turquie, attaquer les Kurdes et emmerder les Kurdes, elle les soutient. Du coup, ça fait une position qui est quand même difficilement intelligible et intelligente, en tout cas. Donc voilà ce qu'on sait en tout cas sur l'auteur de l'attentat. D'après les services de sécurité, c'est que c'est un Syrien de 23 ans, puisqu'ils ont retrouvé des empreintes digitales dans la voiture qui a explosé, d'après la police scientifique turque, à prendre entre guillemets bien évidemment, il serait rentré en tant que réfugié sur le territoire turc. Bon, a priori, la police a déjà interpellé 14 personnes liées à l'attentat, mais on n'en sait pas plus. Il faudrait que la justice agisse réellement et qu'elle soit indépendante pour qu'on ait une vraie idée de l'origine de cet attentat, puisque là, on sent qu'il y a de la manipulation pour que voilà, on se serve de ce prétexte-là. On rappelle que d'ailleurs, quelques heures après l'attentat, donc hier soir tard et puis ce matin, l'aviation turque a mené une série de frappes contre un camp de Kurdes dans le nord de l'Irak, un camp du PKK. Ça a fait 70 morts. Donc là, pour le coup, par contre, on sait que cet attentat-là, on sait qui est le commanditaire, hein, c'est la Turquie. Là, par contre, bizarrement, il n'y a eu aucune réaction internationale. L'attentat qui a fait 28 morts à Ankara a entraîné quelques réactions internationales en condamnant l'attentat. Par contre, quand la Turquie fait son propre attentat en assassinant 70 combattants dans un camp du PKK, personne réagit. Donc la Turquie peut continuer ses attaques systématiques contre les Kurdes, puisque la communauté internationale ferme les yeux, dit rien. Donc voilà, c'est l'ambiguïté et l'hypocrisie et l'horreur de l'attitude turque continue dans cette région du monde.
Alors oui, je vous parlais de l'Arabie Saoudite. Nous allons revenir sur ces exécutions qui continuent semaine après semaine. Nous en sommes à 63 exécutions depuis le début de cette année 2016. Je vous rappelle qu'en 2015, 153 personnes avaient été exécutées. Donc pour cette semaine, ce sont deux personnes de nationalité yéménite et un Saoudien qui ont été exécutés pour trafic de drogue, hein, c'est souvent en Arabie Saoudite. Comme toujours, hein, tout ce qu'on a, c'est des communiqués qui émanent du ministère de l'Intérieur saoudien. Donc de toute façon, on peut absolument rien vérifier. Voilà, je vous laisse faire un petit peu le calcul chez vous là. On en est à 63 aujourd'hui. Combien ça va faire si on continue à ce rythme au 31 décembre 2016? Ça va faire certainement beaucoup, beaucoup d'assassinats pour cet État d'Arabie Saoudite. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu de la Chine. On a assisté cette semaine à une passe d'armes diplomatique entre le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de l'ONU, Monsieur Alhusen, et la Chine, plus précisément la mission qui représente la Chine à l'ONU. Alors, il faut dire que ce haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé hier le gouvernement chinois à libérer immédiatement et sans condition les avocats et militants des droits de l'homme qui ont été arrêtés ces derniers mois. Alors, je vous rappelle un petit peu, hein, depuis cet été, l'été 2015, le gouvernement chinois a lancé une grande répression contre les avocats des droits de l'homme et contre des cabinets juridiques. Il y a eu... On parle de 100, 150 interpellations dans toute la Chine. Donc c'est un chiffre assez important pour faire réagir l'ONU. Alors l'ONU parle aussi de harcèlement et d'intimidation. Alors en réaction, la mission permanente de la Chine à l'ONU, déjà s'est exprimée, a expliqué que c'était des commentaires irresponsables de la part du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et puis surtout, elle explique la Chine que, en fait, tout ça c'est du mensonge, puisque finalement, en fait, ces gens qui ont été arrêtés, ce sont des criminels. Ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme, avec la liberté d'expression. Non, 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 ce sont tous de vilains criminels. Donc voilà, la Chine, évidemment, dément réprimer qui que ce soit. Alors, il n'y a pas que les avocats, hein, vous allez me dire. Et alors, justement, moi, j'ai trouvé cette histoire de cette semaine, hein, mais parce que c'est pareil, en Chine, on pourra en raconter toutes les semaines. Alors, c'est un homme qui est plutôt jeune, hein, il est sexuagénaire, il s'appelle Yang Jinseng, et il devait se rendre aux États-Unis d'Amérique pour recevoir une récompense littéraire. Pourquoi ? Ben, pour son ouvrage paru en 2008, qu'on trouve au point... Hein, qui s'appelle Stèle, la grande famine en Chine 1958-1961. C'est un ouvrage qu'il a écrit après 12 ans de recherche. Il se base aussi, hein, sur des archives gouvernementales. Et jusqu'à présent, son livre est interdit en Chine. Alors il est lu, hein, puisqu'on raconte qu'on le trouve, hein, sous le manteau, marché noir. Donc voilà, le livre arrive un petit peu à circuler quand même, parce qu'il faut dire qu'il remet en question cette grande politique, ce grand bond en avant qui était censé être une merveille hein, pour la Chine et pour son développement, qui a été une vraie catastrophe. Donc il donne des chiffres très précis sur le nombre de victimes, les morts, la famine, enfin tout ce qui... Voilà, il peint un tableau vraiment pas très beau de cette époque. Et donc il devait aller aux États-Unis recevoir un prix à l'université d'Harvard, mais il semblerait que son ancien employeur, l'agence de presse Chine Nouvelle, a bloqué son déplacement. Alors il faut savoir que en Chine, vous savez bien, c'est pas une société très individualiste, sauf quand on a du pognon, tout est lié, tout est quand même sous contrôle, il y a des gens à qui vous devez vous adresser, il y a plein de permissions à demander pour tout un tas de choses d'une manière constante, régulière, et il est lié à son ancien employeur, hein, il est dépendant financièrement de son employeur, qui continue à lui rétribuer, un petit peu comme une retraite, si vous voulez. Mais alors on sait pas bien, parce qu'on peut penser quand même que l'agence de presse Chine Nouvelle, c'est qu'un paravent à la censure du gouvernement chinois, plutôt c'est ça, qui d'un seul coup aime plus du tout qu'on parle et qu'on critique hein, de cette période en Chine, veut vraiment quand même cacher cette histoire-là. Alors ce qui est curieux, c'est que... Il faut dire que c'est ça qui n'a pas dû plaire aussi en Chine, c'est qu'en fait il a reçu un prix en Suède pour cet ouvrage, et à l'époque il avait pu y aller, mais simplement parce qu'il ne l'avait pas dit en fait pourquoi il allait en Suède. Donc ça, certainement que quand il est revenu, on peut penser que ça n'a pas bien plu, il a certainement dû être mis sous surveillance parce que les expériences passées vont dans ce sens, avec d'autres militants, d'autres personnes engagées. Alors est-ce qu'il a reçu des menaces aussi? Voilà, donc évidemment il n'a pas bien le droit de s'exprimer pour l'instant, donc on n'en sait pas bien plus, mais en tout cas, c'est quand même un peu, encore une fois, une preuve, que les droits de l'homme en Chine, c'est vraiment pas du tout ça, et on en est encore bien, bien loin. Alors, on va peut-être parler d'un compteur, maintenant, si tu veux.
Oui, on va revenir sur Linky, là, ce fameux compteur qualifié d'intelligent, mais bien évidemment, il n'y a aucune intelligence dans un compteur électrique, il y a juste de l'électronique et de l'informatique. Donc, ce Linky, quel compteur pour l'électricité, il y a un équivalent qui s'appelle Gaspar, pour le gaz, qui, ces deux compteurs sont censés, à terme, équiper tous les foyers du territoire français. Donc, grosso modo, ces compteurs qui sont très utiles hein, pour les ceux qui fabriquent qui vendent de l'électricité et qui vendent le gaz, puis qui permettent d'avoir des informations de consommation très rapidement sans avoir besoin d'envoyer des êtres humains relever les compteurs, puisque ça se fera de manière électronique, tout ça. Donc c'est un gros avantage pour eux. Alors ils sont, ces compteurs, contestés. Au nom de la santé, au nom de la liberté, on va revenir dessus, parce que la contestation commence à enfler. Il faut dire que jusqu'à maintenant, les installations étaient expérimentales. On sait que notre région a fait partie de l'expérimentation. Et là, ça se met en place à plus grande échelle, notamment pour le compteur d'électricité Linky. Alors, on a quelques exemples, notamment à Batfol-sur-Dordogne, donc en Dordogne. Donc, les compteurs Linky sont pas les bienvenus, puisqu'il y a eu un arrêté municipal. En fait, les conseillers municipaux, c'est un village de 220 habitants, ils ont refusé à l'unanimité l'installation du compteur, en reprenant ce que portaient certains habitants du village, en disant bon, il y a un souci de protection de la santé des habitants et notamment celle des enfants. Alors c'est un poil facile hein, de dire ça et d'instrumentaliser la santé, mais ça leur permet d'avoir une bonne excuse pour refuser l'installation du compteur. Alors on a un des élus là, qui est d'Écologie Les Verts, Martin Slagui, qui explique, je cite, « Beaucoup d'administrés nous ont alertés, il y a un flou artistique et aucune raison pour faire ces installations. Alors le conseil municipal a suivi les habitants. Quand on voit que quelque chose fonctionne, pourquoi le changer alors que cela coûte très cher ?» Et il n'est pas le seul donc à se poser des questions sur l'installation de ces compteurs dits communicants, aussi bien pour l'électricité que pour le gaz, hein, puisqu'il y a un peu des réactions un petit peu partout. Alors, ce qui pose problème, c'est que ces compteurs, ils appartiennent aux collectivités territoriales. Donc, c'est pas non plus les conseils municipaux qui ont une emprise dessus. Donc, ce qui décide, comme ça, on ne sait pas l'impact que ça peut avoir. Alors, ERDF, donc, qui s'occupe de la distribution, est au courant de ces petites réactions et pour l'instant ne répond pas vraiment, ou en tout cas tente des négociations et n'est pas encore allé devant la justice. De même pour le futur compteur de gaz communicant, le Gaspar, dont le nom est très très bien trouvé par rapport à Linky, qui a un nom tout pourri. Au moins Gaspar, c'est drôle. Donc GRDF, la société qui distribue le gaz en France, qui est propriétaire d'une grande partie des compteurs, eux ils sont coincés sur un autre système, parce que c'est pas le même système que Linky. On reviendra sur le système utilisé par Linky, qui est potentiellement plus dangereux pour la santé que ne l'est Gaspar d'ailleurs. Gaspar, lui, ils ont besoin d'installer un relais, ça s'appelle un concentrateur, qui va récupérer les infos envoyées par des ondes électromagnétiques, par le compteur à ce concentrateur. Et ce concentrateur, il a une carte SIM, il va se connecter au réseau mobile traditionnel et envoyer les infos aux fabricants, aux vendeurs de gaz. Mais pour installer ces concentrateurs, qui revient un peu à l'inverse des antennes en fait, enfin si, c'est des petites antennes, ils sont obligés de passer souvent par les mairies, parce que c'est sur des locaux publics ou c'est sur l'espace public. Et là, eux, ils peuvent faire face à effectivement une opposition réelle en disant bah non, on n'en veut pas. Et si les mairies ou les élus refusent ces concentrateurs, ben le compteur il fonctionne à l'ancienne, quoi. Il faut venir relever. Alors on n'est pas obligé de rentrer chez les gens, hein, parce que du coup ça peut se faire le relever à distance, mais on est obligé d'envoyer quelqu'un. Voilà, alors pour Linky, pour revenir sur Linky, c'est la généralisation, on va dire, a commencé il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques mois, le 1er décembre dernier, et devrait se terminer en 2021, il faut quand même pas mal de temps. Pour Gaspar, pour l'instant, c'est 24 communes seulement de 4 grandes zones qui ont été définies comme zones test, qui concernent donc 11 millions de compteurs installés, donc pas l'intégralité de la population. Pour ceux qui auraient du gaz de ville, bien évidemment. Alors, pour prendre un autre exemple de réaction, c'est Stéphane Lhomme qui le porte. Alors, Stéphane Lhomme, on le connaît, il a été au réseau Centre Nucléaire, il est maintenant membre et fondateur de l'Observatoire du Nucléaire, quand il est parti du réseau Centre Nucléaire. Et il est aussi conseiller municipal de Saint-Macaire, en Gironde, et donc lui, il a fait voter par sa commune une interdiction de l'implantation de ses compteurs Linky. C'est pareil, lui il exprime, hein, il explique que il a des doutes sur notamment la santé. Alors il utilise le critère écologique en disant que c'est un désastre écologique de jeter des millions de compteurs pour remplacer par d'autres. Il faut quand même savoir que les compteurs qu'on a actuellement sont souvent des compteurs qui ont plus de 20 ans, voire 30 ans. Ils sont pas loin d'être quand même dans des sales états, notamment certains. Donc il y a aussi besoin d'un renouvellement. Donc l'excuse du renouvellement des compteurs est à mon avis pas la bonne à utiliser pour lutter contre l'implantation de Linky. Alors c'est pareil, lui aussi il instrumentalise la santé. Je le cite par exemple, on n'a pas à prendre les gens pour des cobayes, il est hors de question de courir le risque d'avoir à compter des cancers dans quelques années. Alors c'est un petit peu facile parce que personne n'a jamais pu prouver que le peu de transmission de données que vont faire les compteurs Linky ou Gaspar vont être responsables de cancers, alors que le Wi-Fi se développe partout. Donc c'est le critère de la santé, à mon avis, un mauvais exemple. Alors pour reprendre le problème de la santé, pourquoi il y a des problèmes de santé? Donc on a vu tout à l'heure, Gaspar va utiliser des ondes électromagnétiques traditionnelles et communiquer après avec le réseau cellulaire. Le Linky, eux, ils ont opté sur une autre technologie plus utile pour eux, puisqu'ils possèdent le réseau de distribution de l'électricité, ils possèdent donc les lignes électriques, ils peuvent donc faire véhiculer les informations sur les lignes électriques, ce qu'on appelle un courant porteur. Le terme, l'abréviation, c'est CPL. Le problème des courants porteurs, c'est qu'en plus du 230 volts que vous avez sur vos fils électriques, on superpose un signal de données. Le problème, c'est que des signaux de données sont sur des fils électriques qui ne sont pas isolés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une trace de masse autour, comme c'est le cas normalement de certains fils réseau. Et ben, ça émet donc des ondes électromagnétiques sur ces signaux-là, qui eux ont un potentiel dangereux bien plus fort d'ailleurs, qui est mesurable et qui en mesure électromagnétique est plus important que le Wi-Fi par exemple. Donc les coupleurs de porteurs de ligne, les courants porteurs de ligne, sont vraiment à prohiber dans les installations, bien pire que le Wi-Fi. Si chez vous, vous avez le choix, notamment je sais qu'il y a certains opérateurs qui les obligent, qui les installent directement dans leur box, il faut absolument préférer le Wi-Fi au CPL, qui est bien pire, hein. Vous imaginez, bien pire que le Wi-Fi. Donc voilà, donc son excuse n'est pas la bonne. C'est quoi l'excuse pour lutter contre le compteur, contre ces compteurs-là ? Eh bien, c'est l'espionnage. C'est le fait que ces gens, ils savent tout de nous. Et c'est là qu'est le vrai problème. C'est le respect de la vie privée. Un petit exemple, ces deux entreprises, là, le de gaz ou de donc GRDF et ERDF, suivant à quelle fréquence elles vont finalement voir ce que la consommation, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, ils vont savoir à tout moment ce que vous faites chez vous, si vous êtes chez vous, si vous avez des invités, parce qu'en fait c'est très facile informatiquement d'analyser les consommations électriques individuellement. On voit très bien quand vous avez tel truc qui est en marche, ça c'est la machine à laver, ça c'est autre chose, là il y a plus de trucs. Ils arrivent à déterminer avec des algorithmes, sans être 100% fiable, mais en tout cas une partie des activités des gens. Du coup, c'est quand même pas mal comme espionnage. Alors, il nous explique que ça sera protégé, la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, se porte garant, tout ça, mais on va pas les croire du tout. Et effectivement, le vrai danger de Linky, c'est l'intrusion chez nous de ces entreprises qui vont tout savoir de notre vie. Plus que les problèmes de santé ou d'électrosensibilité qui sont moindres finalement que ce qui existe avec le développement du Wi-Fi et des courants porteurs de partout sur lesquels on devrait plutôt lutter, utiliser le critère de santé pour lutter que pour Linky où c'est plutôt le problème de gestion de la vie privée. Alors, la question qui se pose ailleurs, est-ce que ça s'est passé parce qu'en fait, c'est issu d'une directive européenne qui oblige maintenant l'installation de ces compteurs dits intelligents. L'Allemagne a dit non, pour l'instant. Alors, je sais pas, à un moment, ça va coincer, mais ils ont dit non à cause de ces différents critères-là. Pour les autres pays, on n'a pas trop d'infos encore ce qu'il en est. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui en France, et pour terminer sur cette info-là, les communes, il y a une vingtaine de communes comme ça qui s'opposent à l'installation de ces compteurs, c'est tout en négociation avec ERDF ou GRDF, et il n'y a pas d'action en justice encore, alors que pour GRDF, il n'y a pas forcément d'action en justice possible, par contre pour ERDF, si, puisque dans la loi, c'est écrit que l'installation des compteurs est obligatoire dans la loi de transition énergétique, donc il y aura sûrement des actions en justice si jamais la résistance se développait. Mais peut-être que c'est ce qu'il faut qu'il se fasse, hein, que la résistance se développe, qu'il y ait des actions en justice pour que ce soit vraiment médiatisé et qu'on arrête d'instrumentaliser la santé et qu'on se batte vraiment pour la protection des données personnelles, qui est à mon avis la chose la plus intelligente à faire parce que c'est pas attaquable, alors que la santé, il n'y a aucune étude qui a jamais démontré que le compteur Linky il peut être dangereux et développer des cancers chez les enfants, comme le dit Monsieur Lhomme.
Alors, je ne sais pas si vous comptez voter socialiste aux prochaines élections.
Oh pardon, j'allais vomir.
En tout cas, si vous l'avez fait...
J'espère que vous avez des sacs à vomir chez vous, parce que tous les jours, vous devez être vert.
Ouais, c'est dur. Bienvenue en pays socialiste. Alors évidemment, nous pourrions dédier ce Canu Info à Mme El Khomri. Il faut dire que ces propositions sont magnifiques. Nous allons vers le mieux, donc je vous le dis. Le gouvernement l'assure, pas question de toucher au principe des 35 heures. Nous voilà donc rassurés. Mais alors ce texte, hein, qui est donc paru cette semaine, hein, une centaine de pages, 47 articles, et des belles propositions pour nous, parce que nous le valons bien, travailleurs et travailleuses. Alors je vous invite à lire Madame El Khomri dans le texte sur le site des Échos. Il n'y a aucun recul des droits des salariés, nous explique-t-elle. Et dans ce papier, elle explique aussi que le gouvernement prendra ses responsabilités. La presse commence déjà à parler du recours au 49-3, hein, qui leur permettrait, paf, d'abattre tout ça avec un coup de massue. Alors qu'est-ce qu'on a retenu, nous, dans ces belles propositions ? Bon, on en a retenu quelques-unes qui nous ont particulièrement marquées, il faut le dire, il y en a plein, hein, des trucs, mais on ne va pas tout faire. Il y a la grande baffe aux syndicats, il faut le dire quand même, puisque si les syndicats majoritaires ne validaient pas un accord, il pourrait y avoir la tenue d'un référendum, un moyen de contourner donc le syndicalisme, hein, tout simplement.
Et on sait que c'est facile, hein, dans les PME où les syndicats sont peu implantés, où souvent il y a un ou deux militants syndicaux qui se battent comme ils peuvent face au patron. Ben, ça sera très facile de les faire plier et du coup de faire voter les salariés qui, eux, ont beaucoup moins de force de résistance face à la pression des patrons.
Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Ah, le travail modulable, hein, le temps de travail modulable, ça va être chouette, puisque l'entreprise pourra moduler librement le temps de travail et le salaire de ses employés pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. On va s'éclater.
Ouais, 60 heures par semaine, moi je trouve que c'est pas mal hein, quand même.
Ouais, alors que, bon, c'était possible, mais très rare.
Ouais, c'est-à-dire
qu'il fallait déjà demander une autorisation pour les entreprises et c'était pas forcément bien vu et bien accepté. Là, l'idée, hein, c'est de faciliter, hein, évidemment, l'entreprise et le travail. C'est pas pour nous aider, nous, hein, les travailleurs, soyons bien clairs, hein, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a retenu, là, ça? Nous, on a beaucoup aimé cette affaire d'astreinte. Alors, vous savez, l'astreinte, vous attendez d'aller peut-être travailler, d'être peut-être appelé. Donc en général, vous êtes dans des conditions où il faut rester à côté d'un téléphone, dans des conditions prêtes à réagir rapidement.
Quand vous êtes astreinte, c'est que vous êtes responsable technique, vous avez des compétences pour intervenir en cas de problème. Donc vous êtes chez vous, vous devez être disponible, vous n'avez pas le droit de boire, pas le droit de...
Enfin, il y a plein de... Voilà, vous êtes en attente, donc vous êtes en attente.
Vous êtes
de
chez
votre...
vous, mais vous n'êtes pas non plus...
Ah, non. Bah, vous n'êtes pas libre.
Voilà, c'est ça, vous n'êtes pas libre du tout.
Vous êtes toujours lié à votre employeur et à la mission qu'il pourrait vous confier.
Donc jusqu'à maintenant, quand vous aviez ces temps d'astreinte, vous étiez payé pour faire ces temps
d'astreinte. Ça faisait partie de votre travail. Mmh. Alors, maintenant... Grâce à cette belle proposition, si à la fin de votre période d'astreinte, vous n'avez pas été appelé, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, cette journée se transformera en repos.
Voilà. Et oui. Donc vous êtes chez vous coincé, vous attendez, vous n'avez pas le droit de sortir avec vos amis, vous n'avez pas le droit de faire la fête, vous n'avez rien le droit de faire. Et si jamais il n'y a pas d'appel parce qu'il n'y a pas eu de problème, eh ben c'est comme si vous étiez en congé, sauf que vous n'avez rien pu faire. C'est sympa quand même le monde moderne.
Et alors ça c'est quand même je crois le truc qui est le pour nous hein, qui nous a le plus marqué parce que alors on va donc moi j'attends qu'on nous propose d'aller bosser gratos quoi
enfin, oui, mais c'est la prochaine étape.
Comme le disait un camarade de la causerie que nous avons croisé juste avant ce Canu Info c'est un retour sur 148 ans de lutte voilà c'est le parti socialiste écrase tout ça joyeusement, hein, puisqu'on avait pu avoir de la part de M. Sarkozy le travailler plus pour gagner plus. Au moins, lui, il nous faisait croire qu'on allait gagner quelque chose. Là, le Parti Socialiste, c'est pas le cas, hein, à part nous dire qu'ils vont garder les 35 heures. Mais comme ils font tout à côté pour qu'elle puisse, ce système puisse être cassé, ils se fichent bien de notre tronche. Ce que j'ai aimé, moi aussi, c'est par exemple... Si une entreprise est dans un secteur en difficulté, même si jamais elle va bien, eh ben, elle pourra invoquer la nécessité d'un licenciement économique.
Oui, il n'y a plus besoin d'aller mal. Quoi.
Non, mais voilà, c'est, en fait, je ne sais pas pourquoi ils ne brûlent pas le code du travail une bonne fois pour toutes, plutôt que de s'amuser à tout ça. Mmh. Parce que franchement, là, ils sont en train de détricoter tout ça.
Mais d'ailleurs, hein, ils n'ont eu aucun compliment des salariés, des travailleurs, des syndicats, et ils ont eu des compliments des patrons.
Oui, bah c'est bien la preuve que c'est
il
pas terrible.
Il travaille pour le patronat.
Alors après, moi j'ajouterais juste que ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que dans un certain nombre de conventions collectives, on a déjà hein, de ce genre d'accord qui existe, donc ça touche déjà une partie des salariés. Mais là, ça c'est la base, et donc on avait déjà eu cet effritement où la base n'était plus collective, elle était plus solidaire pour tous et toutes. Bon, bah maintenant, on est même en train d'écraser complètement la base et ce code du travail. Ouais, je sais pas ce qu'il va nous tomber sur la gueule demain avec ce parti socialiste, mais waouh.
Mais c'est intéressant, au moment où, à nouveau, on nous réexplique que d'ici une vingtaine d'années, 50% des emplois vont disparaître parce que vont être remplacés par des robots. Quelle est l'alternative à bosser plus de 35 heures? Comment on va faire si la moitié du travail disparaît? Et on rappellera d'ailleurs qu'il y a la mythologie comme quoi il y a moins de travail en France parce qu'il y a eu des grosses délocalisations, ce qui est totalement faux. On rappelle l'énorme baisse du travail en France, elle a eu lieu avant les délocalisations, elle a eu lieu lors de l'automatisation, donc quand les robots ont pris la place des salariés. C'est pas forcément un mal hein, que sur le travail pourri, ce soit des machines qu'ils fassent à la place des êtres humains, ça leur évitait d'avoir des boulots assez minables. Sauf qu'il aurait fallu partager le travail. Et ça, c'est pas envisagé. Et pour l'instant, on voit pas comment ils préparent l'avenir si dans les 20 ans qui viennent, les 50% des boulots disparaissent. Il va falloir qu'on partage le travail. Donc qu'on passe à 10, 15 heures, 20 heures peut-être au maximum par semaine, mais pas plus. Donc là, on sent que c'est quand même très très mal parti, qu'ils ont assez peu de vision de l'avenir, ils se posent pas de questions, ils obéissent juste aux ordres des patrons qui ont une vision juste à très court terme.
Alors, en réaction, hein, de peu de partout, pas forcément en réaction à Mme Khomri et à ses propositions, mais en tout cas, il y a toujours des gens qui sont en lutte, et c'était le cas, et c'est le cas cette fin de semaine à la CAF du Rhône, puisque les syndicats, les travailleurs ont appelé à une grève ce jeudi et ce vendredi. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils estiment qu'il y a un échec dans la mise en place de l'accueil sur rendez-vous. Ça marche pas. C'est-à-dire que ça n'a fait qu'allonger l'attente pour les allocataires, qu'il y a des files d'attente de plus en plus longues, et puis surtout qu'ils n'arrivent pas finalement à répondre aux allocataires. C'est-à-dire que les allocataires repartent souvent sans réponse. Donc ils estiment qu'ils peuvent pas faire leur travail correctement. Ils demandent une augmentation du personnel. Et ils insistent sur le fait qu'ils ne veulent pas de CDD avec du personnel placé en mission sans formation, parce que ça aussi, ça commence à suffire. C'est-à-dire qu'ils veulent du personnel à long terme, qui ait le droit à être formé, pour que y ait des vraies possibilités de faire son travail correctement. Il y avait ce matin 250 salariés qui sont réunis lors d'une assemblée générale, et demain, des représentants des syndicats doivent être reçus par la direction de la CAF. Voilà, mais là, ce qu'il faut rendre compte, c'est que c'est une lutte aussi pour nous, hein, c'est-à-dire c'est leurs conditions de travail, mais c'est surtout pour que nous, on puisse être accueillis dans de bonnes conditions. Autre grève dans le coin, c'est aux Deux Alpes. Vous savez, c'est la période du ski, puisqu'il paraît que le dérèglement climatique n'est pas encore assez important, et puis qu'on rajoute de la fausse neige, enfin de la fausse vraie neige, vous savez, aussi pour pouvoir consolider certaines pistes, hein, c'est aussi des pratiques qui se font beaucoup à la montagne. Et bien, aux Deux Alpes, il y a eu là une grève des agents d'exploitation des remontées mécaniques, ce qui fait que les skieurs et les skieuses sont restés en partie en bas. Oui, c'est les vacances, hein. Et oui, ça tombe bien. Alors, ils demandaient ces grévistes une hausse de salaire d'environ 11%. Il faut dire qu'en décembre dernier, lors des négociations, la direction a proposé une augmentation de 0,7%. Oui, même pas 1%, ce qui est un peu que dalle, hein, je vous laisse imaginer. Les syndicats tiennent à rappeler que pendant ce temps, les actionnaires, eux, sont largement augmentés. Hein. C'est une société Deux Alpes Loisirs qui gère les Deux Alpes. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, EFO aurait accepté un accord autour de 2% d'augmentation de salaire, ce qui est trop bas pour d'autres. Voilà, donc c'est cet accord a priori qui devrait être passé malgré tout. Mais voilà, c'est rare, hein, aussi, hein, de voir des saisonniers et des travailleurs de la montagne se mettre en grève de cette façon. Et puis toujours dans les vacances, c'est une grève portée par la CGT, la CFDT et Sudrail en région Rhône-Alpes, une grève de la SNCF qui a démarré ce jeudi à 18h et qui va se terminer mardi 23 février. C'est pareil, c'est les vacances, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'ils dénoncent, les cheminots ? Ils dénoncent la suppression de plus de 100 postes en 2016, l'éclatement de l'entreprise. Hein, vous savez, à chaque fois qu'il y a un redéveloppement des activités, les travailleurs en prennent plein la tronche. Ils en ont marre, hein, de ces réorganisations, de ces restructurations. La direction de la SNCF a dit que du côté du trafic TGV, tout serait normal. Bon, par contre, on n'a pas bien d'infos au début, hein. Maintenant on en a un peu plus sur le trafic des TER par exemple, parce que là a priori ça va être beaucoup plus sévère, mais bon, la direction tient toujours à mettre en avant plutôt la bonne réussite du TGV. Et puis on va rester dans le transport, on va partir chez Airbus, ce sont les personnels des ateliers d'Airbus qui ont débrayé mardi pour protester contre un projet d'accord d'entreprise. Alors, que prévoit ce projet ? Il prévoit qu'en fait, les salariés soient maintenant obligés de badger en uniforme, en bleu de travail. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils arrivaient, ils badgeaient, et ensuite ils changeaient. C'est un conflit qui revient souvent et qu'on retrouve beaucoup dans la grande distribution par exemple, mais aussi dans l'industrie. Donc évidemment, ça a fait grogner et réagir. Donc c'est une mesure qui concerne, excusez-moi, les sites de Toulouse, de Nantes et de Saint-Nazaire. Cette mesure devrait être mise en place en avril. Alors, il paraît que c'est pour des problèmes de compétitivité. Imaginez donc qu'Airbus, au niveau international, a besoin donc de gérer cet habillement de ses salariés, de ses personnels d'atelier. Alors, l'direction estime que c'est un temps d'habillage et de déshabillage qui coûte 20 minutes par jour. Et donc, ils ont proposé une compensation financière, 60 euros par mois, et puis aussi de temps, avec 3 jours à récupérer par an. Sauf que les syndicats, dont la CGT, ont fait d'autres calculs et estiment qu'il faut beaucoup plus de temps et que c'est plutôt augmentation de 9h à 9h30. Hein, donc, on est loin des 20 minutes amenées par la direction. Et puis, il y a aussi des remarques sur le fait que c'est pas juste une question d'argent, mais c'est aussi une histoire de bien-être. C'est qu'arriver avec son bleu de travail, c'est pas la même chose que d'arriver et de se changer une fois qu'on est dans l'entreprise. Vous voyez, c'est subtil, mais c'est pas tout à fait le même rapport quand même. Voilà, il y a d'autres débrayages possibles jusqu'à lundi qui sont attendus en attendant de savoir ce que la direction va proposer d'autre. Et puis, je voulais juste rapidement revenir un petit peu sur cette affaire Bouygues Télécom. Vous savez que Orange veut manger Bouygues Télécom, sauf que c'est pas si simple, puisqu'en fait, Bouygues Télécom va certainement être démembré. Alors, un petit bout à Orange, un petit bout à Free, et un petit bout à SFR. Puisqu'évidemment, il va falloir éviter qu'il y ait une présence trop forte d'Orange, donc il va y avoir des petits bouts donnés un petit peu comme ça à tout le monde. Et alors là, c'est là où évidemment on peut penser que si on bosse pour Bouygues Télécom, on se demande bien à qui demain on va appartenir en tant que travailleur, puisque ben peut-être que ceux et celles qui sont en boutique vont être récupérés par Free. C'est un peu ce qui se dit, les conseillers, les conseillères iraient plutôt peut-être chez Orange quand ça concerne les grands comptes, c'est-à-dire les clients riches. Donc là, c'est la grande question, puisque pour l'instant, tout ça est mis un petit peu en attente. Ça devrait bouger d'ici mars. Mais c'est une vraie question à chaque fois, c'est pour qui je travaille demain, si aujourd'hui je travaille pour Bouygues Télécom. Est-ce que je vais être chez Orange ou chez Free ou chez SFR? On n'en sait strictement rien. C'est quand même, moi j'aimerais pas être dans cette position. Et puis j'avais envie de vous parler des modèles d'art. Oui, on parle pas assez des modèles d'art. Alors les modèles d'art, vous savez, c'est des gens qui posent, en particulier dans les écoles par exemple, d'art. Et peut-être vous vous souvenez, mais en 2008, il y avait déjà eu un mouvement de ces modèles d'art qui avaient posé nu devant la direction des affaires culturelles de la ville de Paris pour protester contre la suppression du cornet. Le cornet, c'est une gratification donnée par les élèves, si vous voulez, à l'école directement. Et ça, donc, ça a été interdit au niveau administratif. Et puis, face à cette suppression du cornet, ils avaient demandé à l'époque une revalorisation salariale. En 2009, la mairie de Paris avait augmenté le taux horaire, mais il faut bien dire que l'augmentation n'avait pas compensé le fait qu'il n'y ait plus le cornet. Alors aujourd'hui, les modèles d'art redescendent dans la rue. Cette fois, ça sera habillé, ça sera samedi à Paris, place de l'Hôtel de Ville, à partir de 13h, on ne sait jamais si vous êtes dans la capitale. C'est un appel de Force Ouvrière des modèles d'art, du collectif des modèles d'art et de l'association des modèles d'art de France, qui donc espère, lors de ce rassemblement, obtenir enfin un statut professionnel, puisque pour l'instant, en fait, ils sont un peu rien. Ils sont un peu vacataires, ils sont un peu... par exemple, la mairie de Paris les classe dans divers et spéciaux. Il faut savoir que les modèles mannequins, eux, ils ont un statut professionnel, ce qui n'est pas le cas, donc des modèles d'art, et eux, ils aimeraient bien enfin rentrer dans une case un peu correcte pour pouvoir avoir des droits aussi tout aussi corrects. Et puis, samedi, ils vont aussi réclamer le passage du taux horaire de 17,40 € brut à 21,78 €. Oui, c'est très précis. Il faut savoir que c'est un métier difficile quand même, déjà dans la pratique. Et puis, on n'est pas très riche quand on est modèle d'art. Il faut faire beaucoup d'heures, cumuler vraiment les emplois. Il y a une autre chose aussi qui est demandée par les modèles d'art, c'est d'améliorer les conditions de travail. Ça a commencé à être fait. Il faut savoir qu'il y a encore pas si longtemps, les modèles posaient sur des sellettes, donc c'est-à-dire sur quelque chose de dur. Maintenant, ils ont droit à des tatamis ou des matelas, par exemple. Et puis surtout, ils ont réussi à obtenir dans un certain nombre de lieux que ça soit des draps à usage unique et pas des machins qui restent pendant des semaines et sur lesquels ils doivent se coucher. Donc il y a des choses qui avancent, mais je trouve que ça avance pas assez vite et que voilà, en fait, on s'occupe pas bien d'eux. Donc voilà, c'est ce rassemblement, cette lutte qui aura lieu samedi à Paris. Alors peut-être, je vais vous parler d'autre chose aussi. Je vais enchaîner. Non, mais parce que c'est pas le malheur pour tout le monde, vous savez. Avec ces affaires de footeux, de Serge Aurier, hein, vous savez, ce footballeur qui a été traité de fiotte, son entraîneur, Monsieur Laurent Blanc.
Belle insulte, hein. On peut dire que non seulement il a le cul d'une poule, mais en plus il est homophobe.
Moi, alors il a été d'abord suspendu de manière conservatoire, il y aura certainement d'autres sanctions. Toujours est-il que...
Enfin, si vous dites ça à votre patron, vous n'êtes pas suspendu. D'ailleurs, on peut rappeler que le copain Florent, qui était postier, dont on avait parlé des actions de mobilisation à la poste, qui n'avait pas insulté sa chef, mais qui avait juste dit « je m'en branle sur un truc », il a été licencié. Lui, il a traité son chef de fiotte, hein, et il n'est pas licencié, il est juste suspendu. Donc, ils sont quand même gentils dans le foot. Et en plus, ils lui ont enlevé quoi ? Un bout ?
Oui, un petit bout. Alors, non, mais parce que, alors, la grande affaire, c'est que donc sont remontées à la surface ces histoires de primes d'éthique.
Ah.
Parce qu'il a perdu sa prime d'éthique, Serge Aurier. Et oui. Alors, c'est quoi cette prime d'éthique ? Alors, c'est au PSG hein, que c'est arrivé, avec l'arrivée du Qatar en 2011. C'est une prime variable selon les joueurs et qui va donc s'ajouter à la rémunération de base et qui va aussi s'ajouter à une prime de performance, par exemple. Oui, d'efficacité. Oui, parce que non seulement il est payé pour jouer, mais en plus il est payé aussi à côté pour être efficace. Rendez-vous compte, c'est un truc de fou, quoi. Hein. Donc, cette prime d'éthique, il l'a perdue, Serge Aurier, bah, encore heureusement. Et donc, ça fait remonter un petit peu aussi bah, les montants. Combien on peut avoir avec cette prime d'éthique. Alors, bon, moi je me suis un peu intéressée à Lyon. C'est là aussi où j'ai trouvé les chiffres le plus facilement, il faut le dire. Alors, par exemple, si on prend Alexandre Cazavet. Alors lui, excusez-moi, je suis en train de chercher son salaire, 320 000 euros de salaire, au mois.
Par mois ? Oui, ça va. Oui,
non, je précise parce que je suis sûr qu'il y en a qui vous êtes en train de penser à l'année, non.
Non, ça va. Ça
et
va.
Il avait une prime d'éthique, tenez-vous bien, de 30 000 euros.
Bah, c'est pas beaucoup, ça part 10%, quoi.
Vous ajoutez à ça encore une prime de performance.
Ouais, enfin, alors avec Lyon, il doit pas avoir beaucoup de prix en ce moment. Voilà, attendez, il y a pas de performance à l'OL.
Lui, il a eu 600 000 euros de prime de voilà, supplémentaire. Mais voilà, mais de se dire que la misère, elle est pas pour tout le monde, hein, 30 000 euros.
Mais pas pour les footeux professionnels.
Prime d'éthique.
En fait, ce que le commun des mortels fait dans son travail, c'est-à-dire se comporter normalement, c'est ce qu'on est obligé de donner en plus à des imbéciles de footballeurs. On appelle ça une prime d'éthique parce qu'ils ne sont pas capables de se comporter normalement sans qu'on leur donne de l'argent en plus. C'est quand même triste hein, d'apprendre ça.
Alors, surtout, tu sais qu'il existe une charte du football professionnel qui permet de sanctionner et qui déjà existe.
Il faudrait donc ça, qu'il c'est un truc lire. C'est pas possible.
Ça existe, je veux dire. Donc, c'est en fait. C'est aussi un moyen pour les clubs de tenter de verrouiller puisque dans certaines de ces primes d'éthique, il y a un certain nombre d'articles, dont le respect du club. C'est-à-dire que ça va même au-delà du fait de ne pas avoir des propos homophobes, de le fait d'arriver à l'heure. Non, c'est aussi qu'il faut aussi respecter le club. Donc c'est aussi une mainmise du club sur le joueur, hein, l'air de rien. Voilà, mais oui, c'est pas la misère pour tout le monde.
Non, mais grosso modo, c'est quand même vachement plus protégé que le salarié moyen qui est obligé de faire beaucoup plus et qui, dès qu'il fait un pet de travers, il est licencié, quoi. C'est à moi.
Exactement.
Oui, je vais juste parler. Je vais revenir sur Aurel Sanz, que la sanction est tombée aujourd'hui, l'horrible sanction ou l'horrible non-sanction. Aurel Sanz, grand rappeur dans l'âme. Pas par le talent, a priori, mais par la célébrité, j'ai l'impression. Il avait fait un concert en 2009 et c'est tout découle de ce concert de 2009, puisqu'il avait été poursuivi pour provocation à la violence dans certaines de ses chansons. Alors, violence contre les femmes. Il n'incitait pas à aller tuer son voisin, mais à malmener les femmes. Donc il y a plusieurs associations de défense des femmes, donc notamment les chaînes de garde, le collectif féministe contre le viol, la Fédération nationale Solidarité Femmes, Femmes Solidaires et le mouvement français pour le planning familial, très connu, qui avait déposé plainte pour les propos qu'il a tenus et aujourd'hui, Il était, enfin c'est aujourd'hui, oui aujourd'hui, devant la cour d'appel, puisqu'on en était à l'appel de Versailles, et ben donc voilà, la cour d'appel l'a relaxé. Alors, moi je trouve ça choquant, parce que je vais vous relire quelques extraits de ces belles paroles, pleines de poésie et pleines d'amour pour les personnes féminines. Il disait, alors je cite, c'est pas de moi bien évidemment, « Je respecte les schnecks », alors les schnecks c'est les femmes, « Je respecte les schnecks avec un QI en déficit », c'est horrible hein, quand même, « celles qui encaissent jusqu'à finir handicapées physique ». C'était pas mal. Hein. Je continue, « C'est la bitch la plus moche de son bled paumé, donc tous les gars du coin rêvent de la dégommer ». Il y a un certain respect de la femme. Hein. « Si t'es gourmande, je te fais la rondelle à la margarine ». Non seulement c'est horrible, mais en plus c'est vulgaire, parce qu'il aurait pu avoir des propos poétiques contre les femmes, mais non, en plus c'est bas de gamme. Après il y a aussi une phrase qui est pas mal, renseigne-toi sur les pansements et les poussettes, je peux faire un enfant et te casser le nez sur un coup de tête.
Attends, c'était pour la rime ou
Ah ouais, bah en tout cas donc voilà. Bon, et elle, pour terminer, la dernière phrase en référence à Marie Trintignant, ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintignier. Donc voilà, et ben la justice a estimé que c'était normal. Donc la justice a estimé qu'on avait le droit de traiter les femmes comme ça. C'est quand même assez horrible d'entendre ça aujourd'hui. Mais bon, le mieux c'est presque d'en rire en disant que de toute façon il est plus célèbre aujourd'hui. Je pense qu'on n'entend plus beaucoup parler de lui. Mais que c'est quand même plutôt déprimant de voir ce genre de non-condamnation. Parce que pour une fois, on aurait été content que la justice lui mette un coup de boule.
Alors moi je voudrais vous parler d'olympisme et à la fois de musique ancienne. Et vous allez me dire quel est le rapport ? Le rapport c'est le concert de la loge. Ou plutôt, il y a encore quelques jours, le concert de la loge olympique. C'est un ensemble...
Ah oui, 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 j'ai
tu
vu.
Tu as entendu cette
ouais.
affaire ?
Ah, ils ont, ça fait hyper longtemps que ça existe ce concert de la loge olympique.
Non, c'est pas très vieux. Non. Alors si, alors la première, mais ouais. ce nouvel ensemble créé par le violoniste Julien Chauvet a été créé en fin 2014, début 2015, mais effectivement se base sur le concert de la loge olympique créé en 1782 et qui a duré jusqu'en 1789. C'est là voilà. où tu as tout à fait raison. Et le concert de la loge olympique s'est vu obligé de changer d'appellation sur injonction du Comité national olympique sportif français, qui détient le droit, après avoir déposé le mot olympique auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, d'utiliser exclusivement le mot olympique, et donc s'en est pris au concert de la loge olympique.
C'est quand même horrible, parce qu'ils ont déposé un mot qui existait avant leur invention, puisque le mot olympisme, on rappelle, ça date un peu des Grecs, tout ça, c'est un certain temps quand même. Ils ont déposé le mot, et maintenant, quand vous avez utilisé olympisme, vous n'avez pas le droit.
Alors évidemment, l'ensemble a dû résilier son site internet, changer toutes ses affaires.
Ils auraient pu aller jusqu'au bout, aller en justice, puisqu'effectivement, historiquement, comme le nom existait avant, donc tu disais fin 18e siècle, ils auraient pu se battre là-dessus. Sauf que, est-ce qu'ils ont les moyens d'aller en justice contre un comité olympique comme ça ? Eh ben non.
Bien évidemment.
Donc le faible se ferme sa gueule face à la puissance du sport business.
Ouais, parce que le comité avait demandé au retrait du nom avant le 11 février. Bon, l'ensemble a plié, il n'y avait pas d'autre solution. On peut dire aussi que l'ensemble n'a pas du tout été soutenu par le ministère de la Culture. Hein, très clairement, rien à taper. Quant à la mairie de Paris, puisque l'ensemble se produit beaucoup en Ile-de-France, ils étaient plus sur les JO 2024 voilà. que sur un soutien au concert de la loge, très sincèrement. Donc l'ensemble a changé de nom, a plié. Pourtant, Julien Chauvet, il s'est battu. Hein. Chauvin, excusez-moi, il s'est battu. Justement, il a voulu rappeler que ça faisait référence à un patrimoine et sur lequel, lui, c'est pas juste le nom, son travail est aussi de s'intéresser à la manière dont on rend la musique au spectateur et donc d'être dans l'originalité. Et c'est ce que faisait cet ensemble, cette société de concert à l'époque. Et donc, ça part aussi d'une intelligence de rendre son art qui était assez intéressante. Voilà, tout ça, on lui coupe le nom pour. Mais c'est même débile de la part du Comité
non, parce que
national
quand,
olympique.
Quand tu vois un concert de musique classique fait par la loge olympique, on ne pensait pas au sport du tout, en fait. Il n'y a que les imbéciles du sport business qui se trouvaient dépossédés de leur nom. Parce qu'ils pensent l'avoir inventé, mais pas du tout, messieurs, ça existait avant vous. Enfin voilà, c'est juste la continuité du sport business. Quoi.
La mairie de Paris était toute contente hier de lancer sa candidature auprès du comité. Toujours est-il qu'on pourra noter que la campagne de financement participatif a raté. Ah. Les organisateurs espéraient 12 millions d'euros, ils en ont récolté 630 000.
C'est déjà beaucoup, 630 000.
Ouais, mais enfin, c'est loin des 12 millions espérés. Il faut dire qu'ils avaient quand même fait traîner cette campagne. Normalement, elle devait s'arrêter en décembre 2015, et puis elle a duré jusqu'au 15 février, parce qu'il fallait tout essayer. Voilà, mais ça n'a pas bien fonctionné. Alors, il paraît que le slogan pour cette candidature de Paris 2024 est « La force d'un rêve ». Ah oui. Je vous laisse méditer.
Eh ben, je vous laisse rêver avec l'olympisme. Ça fait toujours rêver, l'olympisme. Petite info de retour sur le virus Zika, puisque pas mal d'infos, voire d'intox, ont circulé sur ce virus Zika et ses fameux microencéphalies, microcéphalies plutôt. Donc, ces malformations à la naissance là sur des jeunes êtres humains. D'où, qu'est-ce qui est à l'origine de ces microcéphalies, on ne sait pas bien. Dès le départ, le virus a été très vite accusé. Il y a eu quelques trolls comme ça, quelques débiles qui ont lancé des théories un peu complotistes. On a, je crois qu'un des rédacteurs en chef, voire le créateur de L'Écologiste, la revue anglaise là, qui est voilà un mec qui s'accroche aux théories les plus débiles, qui avait laissé entendre que c'était des virus des moustiques génétiquement modifiés qui étaient responsables du truc. Enfin bon, bref, des conneries, on en a eu. Et là, on a une nouvelle information. Donc, qui laisse entendre que ce fameux virus Zika, donc qui est transmis par les moustiques, en fait, c'est pas lui directement qui est à l'origine de ces microcéphalies, mais ça serait un produit phytosanitaire utilisé notamment au Brésil qui s'appelle le pyroproxyphène. Donc, produit chimique qui est très très utilisé depuis 18 mois pour lutter contre les moustiques. Et notamment, c'est un produit qu'ils mettent dans l'eau, en fait, et qui tue les larves de moustiques. Ce fameux moustique qui transmet donc Zika, mais il n'était pas fait pour Zika. Au départ, c'était surtout pour la dengue, une maladie relativement répandue en Amérique du Sud. Donc, il y a eu plusieurs études faites par des chercheurs relativement sérieux, pas des vrais scientifiques, pas des rigolos comme l'autre anglais de L'Écologiste, qui ont effectivement noté une relation surprenante entre les épandages, on va dire, les utilisations très répandues de ce pyroproxyphène et ces cas de microcéphalie. Sauf que c'est pas aussi clair que ça, puisque dans d'autres pays, notamment par exemple la Colombie, aucun cas de microcéphalie ne semble être lié au virus, et c'est pas non plus lié à ce produit contre les larves de moustiques. Donc en fait, pour l'instant, la conclusion, c'est qu'il y a plein d'hypothèses, mais qu'il n'y en a aucune qui est validée scientifiquement. L'OMS a lancé des processus d'évaluation et d'études scientifiques. On va arrêter de d'émettre des idées comme si c'était des choses sûres scientifiquement, alors qu'aujourd'hui on n'en est pas sûr. Ce qu'on constate, c'est que 1, le virus Zika se répand beaucoup. 2, il y a quelques cas très importants, enfin plus importants, de microcéphalie dans certains de ces pays, mais que le lien n'est pas avéré du tout. Donc, n'allons pas plus loin que ça et attendons les études scientifiques pour conclure sur qui serait responsable ou pas. Et il faudra peut-être des années, parce que ça peut être très compliqué de trouver le lien entre ce produit, le pyroproxyphène, qui a l'air quand même relativement dangereux, mais qui est autorisé par l'OMS depuis un certain nombre d'années. Et peut-être d'autres choses, parce que du coup les études, le virus et ces microcéphalies sont apparues quand même assez récemment, et trop récemment pour que les études scientifiques aient pu déterminer l'origine, ou en tout cas les facteurs qui pourraient influencer ce surdéveloppement de ces malformations. Donc voilà, aujourd'hui, pas de réponse à l'origine de ces microcéphalies, et on restera là-dessus. C'est encore à moi ?
Bah oui, je crois que tu voulais nous parler du feu dans la maison.
Ah ouais, bon,
la maison EDF.
Ah oui, c'est l'heure du nucléaire.
C'est ça.
Alors, on va reparler brièvement du feu chez EDF, puisque aujourd'hui, il y avait une grève lancée chez les salariés d'EDF, pour des raisons qui sont bonnes et pas bonnes, puisqu'il y en a qui défendaient les centrales au fioul et au charbon, donc ils sont gentils d'essayer d'évoluer, les camarades travailleurs de chez EDF, parce qu'il ne faut pas vouloir défendre les trucs qui bousillent tout. En même temps, ils sont coincés aussi, hein, parce qu'ils sont chez EDF qui fait que des choses pas très positives. En tout cas, on a eu l'occasion d'entendre Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, qui a rappelé les problématiques économiques de l'entreprise qui sont importantes, puisque c'est la catastrophe à moyen terme pour EDF, on l'avait déjà dit, mais là il redit qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent, que ça va être compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque du coup j'ai pas beaucoup de temps, mais il y a une grosse inquiétude. Il y a un livre qui est sorti d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sujet, de Thierry Guddeau, si je le lis bien, parce que du coup j'ai mal écrit forcément, qui s'appelle « EDF, la bombe à retardement » et qui réexplique un petit peu toute la problématique liée au problème d'endettement d'EDF, au vieillissement des centrales. On rappelle que les centrales ont été construites pour durer 40 ans, qu'EDF veut tout faire pour qu'elles durent 60 ans, alors qu'on sait, comme le dit ce Thierry Guddeau, je cite, on sait qu'il y a au moins une quinzaine de réacteurs nucléaires sur les 58 en France qui sont dans un sale état, des fissures, des enceintes qui ne sont plus étanches. Un certain nombre de cas sont extrêmement inquiétants. Alors, c'est pas forcément un militant anti-nucléaire qui le dit, c'est lui. Donc voilà, la situation est problématique. Et lors de tous ces débats autour des enjeux économiques à EDF, Jean-Bernard Lévy s'est réexprimé. Et c'est une entreprise qui est détenue essentiellement par l'État. Donc ce qu'il dit, c'est validé forcément par l'État. Et il a redit qu'il comptait fermer qu'une seule centrale nucléaire. Grosso modo, Fessenheim. Quand l'EPR, le prochain EPR, démarre, bon, on ne sait pas quand il va démarrer, hein, Flamanville, mais un jour. Et là, on se dit, c'est bizarre, ils ont voté une loi de transition énergétique, les traites socialistes, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, qui disait qu'on devait passer à 50% d'électricité fabriquée par le nucléaire. Or, si on ferme qu'une seule centrale, ce n'est pas possible. Il faut en fermer entre 17 et 20 réacteurs. Donc lui, il dit qu'ils en ferment qu'une. Qui ment ? Est-ce que c'est la loi qui a été votée et qui est hypocrite ? Est-ce que c'est lui qui raconte des bobards ? Eh bien, on verra dans les mois qui viennent ce qu'il en est, mais en tout cas, il y a du louche dans tout ça. Un petit mot maintenant, avant de passer à un bref agenda. Toujours sur le nucléaire, avec une enquête qui est faite auprès de la population en Australie en ce moment, puisqu'elle a été lancée en Australie par le gouvernement, et notamment dans une région particulière de l'Australie, l'Australie méridionale, de faire un centre d'enfouissement des déchets nucléaires. Et pas pour l'industrie nucléaire australienne, qui n'existe pas, mais pour les autres industries. Ils ont calculé que ça pourrait leur rapporter 5,5 milliards de dollars par an. Donc aujourd'hui, il y a le projet que l'Australie devienne une poubelle nucléaire pour les autres pays qui ne savent pas quoi faire de leurs déchets nucléaires. Alors la population est interrogée sur un sujet qui est quand même très sensible. On espère qu'ils vont quand même dire non pour que les pays comme la France qui fabriquent des déchets nucléaires les gardent chez eux et les enfuissent sous leur propre tapis plutôt que d'aller le mettre à l'étranger, chez les autres. Et puis vite, un petit agenda, puisqu'il nous reste 1 minute 15 avant de laisser la place à Papillon, si je ne me trompe pas. Dans l'agenda, j'avais une soirée ce soir à la Maison des Associations, qui est dans le 3e, 36 avenue La Cassagne, autour d'un projet pour une presse libre. C'est Pierre Rimbert, hein, qui écrit notamment dans le monde diplomatique, qui propose une version différente de comment une presse indépendante peut exister économiquement, c'est-à-dire fait par des gens qui quand même travaillent dedans, des vrais journalistes, hein, qui ont le temps de s'investir des heures et des heures sur un sujet. Voilà, il y a un débat là-dessus, donc c'est demain à 19h à la Maison des Associations dans le 3e. Samedi à 20h15, place Belco, samedi 20 janvier. Bon, je vais pas y arriver.
Ah, ça y est, Laurent a la toux.
Du coup, j'ai un problème de date, donc je vais pas l'annoncer.
Ah.
Et j'ai aussi un problème de tout. Donc oui, je voulais finalement redire autre chose. Samedi 20 février, c'est plutôt 20 février, il y aura une manifestation Place Bellecour pour soutenir les bains douches de Flessel qui sont en passe d'être fermés. Et il y a aussi, le soir même, à la salle Georges Brassens, ça se situe à Saint-Germain au Mont-d'Or, un endroit où on va assez rarement. Il reprojette un documentaire sur la résistance, enfin sur ce qui s'est passé à Sivens. Donc pour ceux qui sont dans les Mont-d'Or, allez à Saint-Germain du Mont-d'Or. Chemin de maintenue, salle Georges Brassens, samedi soir à 20h pour cette soirée. Et puis pour terminer, mardi, au Zola, un film, C'est quoi ce travail, au sujet du travail des salariés de PSA qui sont interviewés dans ce documentaire. C'est à 20h au Zola à Villeurbanne.
Eh ben, on vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Les Canu Info, on vous rappelle que c'est tous les soirs de la semaine, 19h-20h. Et tout de suite, c'est Papillon.
Bye bye.